RSR, Benjamin Louis.
Laurent Gbagbo a été arrêté aujourd'hui dans sa résidence d'Abidjan où il s'était retranché avec son épouse, Simone, et quelques fidèles. Le président ivoirien sortant a été emmené à l'hôtel du Golfe, celui-là même où il avait assiégé pendant 4 mois à la Alassane Ouattara. Le président élu, reconnu par la communauté internationale. Le cauchemar est terminé, a commenté le premier ministre Guillaume Soro. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Ali Koulibaly, a assuré que Laurent Gbagbo serait traité avec humanité, mais qu'il devrait répondre des crimes contre l'humanité qu'il a commis. Selon lui, les forces spéciales françaises n'ont joué aucun rôle dans l'arrestation. C'est uniquement la victoire des forces républicaines de Côte d'Ivoire pro-Ouattara. Plusieurs quartiers d'Abidjan ont explosé de joie, selon des témoins. L'agence Reuters crie de joie à l'annonce de l'arrestation de Laurent Gbagbo après 10 jours de siège dans sa résidence fortifiée de Cocody. Des Abidjanais ont pris le volant pour parcourir la cité lagunaire en actionnant leur klaxon et manifester leur jubilation. La police bélarusse privilégie la piste terroriste après l'explosion survenue ce soir dans une station de métro de la capitale, Minsk, qui a fait au moins 7 morts et 100 de blessés. Selon une source policière citée par l'agence Interfax, la déflagration s'est produite à proximité du palais présidentiel dans le centre de la capitale du Bélarus. L'afflux de migrants nord-africains a provoqué un affrontement entre les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. Aujourd'hui, la France, l'Allemagne et l'Autriche voulant fermer leurs frontières aux Tunisiens porteurs de permis délivrés par l'Italie. Pour la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, qui participait à ces discussions à Luxembourg, la situation met à l'épreuve le système Schengen. Le président yéménite Ali Abdallah Saleh se dit prêt pour un transfert pacifique du pouvoir. Il n'a toutefois pas accepté formellement un plan de sortie de crise proposé par les monarchies du Golfe et prévoyant à terme son départ. En Égypte, une cour militaire condamne un blogueur à 3 ans de prison pour avoir critiqué les forces armées. Une annonce faite par l'avocate de cet internaute qui n'a pas pu être représenté à son procès. Une 50aine de talibans ont fait défection aujourd'hui en se présentant spontanément aux autorités de la province méridionale de Kandahar, une zone réputée pour être l'un des bastions de l'insurrection afghane. Le chef du groupe, Maolawi Abdulaziz, s'est présenté comme étant l'un des dirigeants de l'insurrection, certificat à l'appui. « J'ai réalisé que le gouvernement n'était pas un régime fantoche contre lequel je devais me battre », a-t-il dit à des journalistes réunis pour l'occasion. Au premier jour de son procès qui s'est tenu aujourd'hui à Bellinzone devant le tribunal pénal fédéral, l'ex-banquier Oscar Hollen Weger a rejeté les accusations portées contre lui par le ministère public de la Confédération. En début d'audience, son avocat a protesté. Le ministère public de la Confédération accuse Oscar Hollen Weger de blanchiment, de faux dans les titres, de complicité de gestion déloyale, de corruption d'agents publics étrangers. Le procès devrait durer toute la semaine et le jugement interviendra ultérieurement. Du côté de la météo, une perturbation peu active traversera demain la Suisse romande. Des précipitations tomberont jusqu'en plaine, mais le soleil devrait faire des apparitions. Il fera au maximum 15 degrés demain en plaine.
Devine qui vient dîner. Michel Durand-Vallet.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Si vous vivez dans l'espérance d'un paradis céleste, avec la crainte et malgré tout la nécessité de passer l'arme à gauche pour y accéder, dans un premier temps en tout cas, chose moyennement agréable, et l'espoir en plus d'être le propriétaire actuel d'une âme suffisamment chic pour rejoindre les armées des anges, alors écoutez, arrêtez tout de suite de fantasmer et de poursuivre cette voie malheureuse et probablement déçue. Arrêtez, puisque en face de moi, il y a une personne qui sait où se situe le paradis sur Terre. Donc luxe, calme, volupté, les humains y sont des anges, sans ailes, à moins qu'ils ne les planquent sur leurs vêtements, en toute modestie et pour ne pas effaroucher le visiteur. Des humains qui ont tous des talents merveilleux et qui vivent en harmonie dans une nature sublime. Et je n'exagère pas, enfin du moins, je n'amplifie pas la pensée et le regard de mon invité. Bonsoir Nasma Al-Amir.
Bonsoir Michel.
Bonsoir. Nasma Al-Amir, vous êtes avant toute chose une conteuse, une raconteuse d'histoires. Parce que vous pensez que le monde entier, l'humanité tout entière, tient dans les histoires que l'on se raconte depuis la nuit des temps.
Oui, j'espère.
Oui, probablement.
Voilà, oui, je pense. Oui. Mm-hmm.
Vous êtes aussi la fondatrice et l'organisatrice d'une nuit du conte célèbre. Mm-hmm. Vous nous en direz deux mots, d'autant qu'on va bien devoir en parler, puisqu'on sera paradis sur Terre. Tout cela par le truchement d'une association poétiquement intitulée « Une luciole dans l'oreille ».
Oui.
C'est joli, ça.
Oui, c'est joli.
Mais avant que nous découvrions ce paradis sur Terre, celui que vous avez rencontré et visité, j'aimerais que vous nous présentiez l'ange malicieux qui est à vos côtés. Tout le monde la connaît, Moussieu.
Oui, c'est ça.
C'est pas une surprise, mais bon.
Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, je voulais présenter un invité. Je vais vous présenter une invitée que j'aime infiniment. Je la connais depuis un petit peu moins de 2 ans, mais je l'aime infiniment, 2 fois de suite. Et elle s'appelle Manuela Mori.
Manuela
Mori.
Manuela Mori.
Mori, voilà. Manuela Mori, une valaisanne de Maz, voilà, qui est juste 25 milliards de fois plus connue que moi. Mais j'avais envie de vous la présenter comme moi je l'aime. Mm-hmm. Voilà, c'était ça mon but au fond. Eh bien, vous savez, moi j'ai pas la télé, vous vous souvenez de cette histoire, oui, de monorétinianisme et autres. Et donc, je ne connaissais pas ces émissions. J'ai ma maman qui, elle, est une fan, on va dire. Voilà. Non, pas du tout.
Ah non, non.
Non, de Manuela.
Ah pardon.
Oui, oui, ah non, quand même. Et qui me disait très régulièrement, j'ai vu une très jolie émission, tu sais, je voyage, elle se met au lit, elle regarde, et puis elle admire la joyeuseté, l'effervescence, la pétillance de Manuela. Elle m'en parlait comme ça. Et c'est vrai que moi, je suis bien un peu à côté de la plaque, pas de la sienne, mais de la mienne. Et j'ai donc pas la télé, je suis un peu dans mon monde avec les histoires, avec des recherches, du chemin de vie, voilà, ces choses qui me guident. Et j'étais dans une période très attirée par le soufisme, pour les contes, pour les raconter, pour raconter cette pensée. Et un jour, ma mère lit La Bonne Nouvelle, pas dans un marc de café, c'est un journal, et elle me dit, tu sais, c'est drôle, mais Manuela Mori, elle est attirée par le soufisme, elle est sensible au soufisme. Je lui dis, ah bon, c'est vrai, elle me file l'article, et je lis l'article, et je vois qu'effectivement, elle a eu une petite rencontre, peut-être même une grande rencontre, dans un avion. Elle était assise à côté d'un soufi qui lui a raconté sa pensée et son cœur un peu. Et alors moi, je suis quelqu'un d'un petit peu enthousiaste, on va dire, je lui ai écrit un petit mail en lui disant, bien, moi je compte des contes soufis, je voulais juste que vous le sachiez.
Simplement.
Voilà, tout simplement. Et je crois que je ne sais même pas si je t'ai dit que je te connaissais ou pas, je ne crois pas.
Je crois pas.
Non, voilà, c'était comme ça, tout simple, tout vif. Et elle m'a répondu, vraiment quelques heures plus tard, vers minuit et demi, où elle m'a répondu quelque chose de très poétique et tellement charmant, et je me suis dit, ou alors là, ça c'est une sœur. Mmh. Voilà.
Bonsoir Manuela Mori.
Mais bonsoir Michel Durand-Ballade.
Je savais pas que vous étiez attirée par le soufisme.
Voilà, on en apprend tous les jours. Hein.
C'est vrai, une rencontre avec un soufi dans un avion.
Oui, bon, je pense que le soufisme, enfin ce qui me touche dans le soufisme, c'est probablement l'aspect, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je crois peut-être que Naspin va m'aider, finalement c'est elle la conteuse, mais je crois que c'est l'aspect
universel un peu.
Universel, poétique. Peut-être que c'est ça. Je crois que c'est surtout la poésie.
Poétique, mystique.
Et voilà. J'ai toujours été dans une démarche mystique. J'en sais rien. Je pense que j'en ai pas les qualités pour toucher au mysticisme.
Mais en tout cas, c'est
quelque chose qui m'attire, quelque chose qui me parle au cœur. Et que voilà, j'ai trouvé ça pas seulement chez les soufis. J'ai trouvé ça dans d'autres démarches, soit spirituelles, soit poétiques. Mais là, c'est vrai. C'était une luciole dans l'avion et qui a touché le cœur. Ouais.
Vous êtes rencontrés comment du coup? Parce que alors il y a un mail, bon certes, et ensuite.
Alors, il y en a eu plusieurs,
oui,
de mails.
Et après il y a eu elle est venue à Genève, je crois, et on s'est donné rendez-vous tout,
voilà,
proche de la télé, dans,
oui,
un petit bistrot asiatique où je vais souvent manger mon bol de riz à midi. Et puis après, il y a aussi eu des collaborations étonnantes,
voilà,
parce que tout à coup, Nasma m'a proposé des gens pour Le Passager. Et grâce à elle, et par son intermédiaire, j'ai reçu Morane et j'ai reçu Eric Truffaut.
Ah oui.
Voilà. Donc comme quoi, chaque rencontre donne lieu à d'autres rencontres. C'est ça qui est chouette.
Manuela, vous aimez les conteurs, les conteuses?
Alors moi, en plus, j'ai un lien direct avec ça, parce que quand je faisais mon école de bibliothécaire à Genève, je suivais des cours avec une femme extraordinaire qui nous a quittés, qui s'appelait Jacqueline Cour, et qui était une conteuse exceptionnelle. Et j'avais des cours de conte. Et du coup, j'ai créé la première, c'est un peu prétentieux, avec l'aide de ma cousine Marie et de mon oncle Rafi, nous avons créé la première nuit du conte à Maz, qui va fêter ses 20 ans cette année.
Oh, Et ça fait 20 ans que ça dure. Donc, un vrai gros point commun, là.
Ouais.
Vous-même, avec votre goût des gens et des mots et votre imagination, Manuela, vous devriez, elle devrait être une bonne conteuse.
Ah oui, elle, mais elle est.
Elle l'est.
Ah oui, c'est clair. Oui, oui, bien sûr.
Écoutez, je prends, je reçois, mesdames. Peut-être un jour, je ferai
prendre ma fille. On ne sait jamais. Manuela Maury, petit exercice obligatoire. Il faut, vous devez me faire le portrait de Nasma Al-Amir tel que vous l'apercevez.
Alors, d'abord, je pense que je vais peut-être penser aux auditeurs, ça veut dire ceux qui n'ont pas l'image, puisque c'est quand même mon métier, et qu'il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire à l'image chez Nasma, quand elle se déplace, quand elle arrive, quand on la rencontre. Il y a cette masse incroyable de cheveux fantastiques, bouclés, qui lui tombent jusqu'au bas du dos, avec une bouche magnifique, un visage... Enfin, elle est belle, quoi. Elle est vraiment très belle.
Si, n'est-ce pas ?
Non, mais
je
vraiment,
confirme.
Vraiment. Et puis, elle a ce petit côté un peu sautillant, comme ça, une espèce de... à la fois dispersée et centrée, c'est un peu difficile de la raconter de ce point de vue-là, parce qu'on la sent à la fois partante, dès qu'il y a quelque chose qui l'intéresse, dès que la lumière est là, hop, elle regarde, elle se dit,
une
tiens,
luciole, hein.
Est-ce que, vraiment une luciole. Et puis en même temps, quand on est dans une conversation avec elle, elle est là, elle se disperse peu, elle est très à l'écoute, elle cherche toujours les connexions, les liens avec les autres. Qui est-ce qu'elle pourrait te faire rencontrer pour que toi-même, tu puisses aller un peu plus loin? Une espèce de communauté. Elle a l'art de la communauté. Et c'est assez fascinant de rencontrer quelqu'un qui n'a pas perdu son enthousiasme. Parce qu'il y a quelque chose de tellement enfantin, quelque part. Cette espèce d'envie, tous les matins, de faire quelque chose d'autre ou de poursuivre son projet. Et je me souviens que quand on s'est rencontrés, je lui racontais cette espèce de peur que j'avais enfant quand on me disait « Mais oui, mais ça, c'est une bonne idée, mais tu... ça va pas être possible, c'est compliqué. » Et Nasma, elle fait partie de l'autre famille. Ceux qui, contre vents et marées, vous disent « Mais c'est possible, on va trouver des solutions, il n'y a pas de problème, j'ai pas d'argent, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, mais on s'en fout, on va y arriver, on va monter un festival. » C'est tellement rare, cette énergie-là, que quand on la rencontre, on se dit qu'elle est rare, quoi, qu'elle est précieuse.
Nasma disait tout à l'heure qu'elle avait eu le sentiment d'être en face des mots d'une sœur. Et je vous regarde, toutes les deux. Alors évidemment, vous n'êtes pas sœur, mais... très sincèrement, quelqu'un me dirait, ah bah, Manuela Maury, bah évidemment que c'est la sœur de Nasma Al-Amir. C'est-à-dire, c'est compliqué, l'histoire est compliquée, mais bien sûr que c'est sa sœur, c'est une jeune sœur qui, etc. J'en serais pas plus surprise que ça, donc, hein.
Ouais.
Je
pense qu'il doit y avoir aussi quelque chose d'un peu, pas dans notre monde, mais on a les yeux foncés toutes les deux, on a des cheveux foncés longs toutes les deux, on a un tempérament
des yeux bruns,
assez,
une bouche pulpeuse, un nez droit, comme ça, une structure de visage. Et puis l'envie de rigoler tout le temps.
Oui,
ça, c'est génétique.
Oui.
Les plus grands généticiens vous le diront.
C'est sérieux ?
Absolument. Lhasa, vous aimez Lhasa ?
J'adore. Je l'ai découverte à Montréal il y a 5 ans.
Eh ben voilà.
Oui.
Occasion de la retrouver. La marée haute.
La route chante. Quand je m'en vais, je fais 3 pas. La route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais 3 pas. La route n'est plus. Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée. Mais le cœur n'a pas assez. crois pas. Et tu es là sur la marée haute. Je suis montée, la tête est pleine, mais le corps n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine.
Douce et poétique de commencer cette émission avec Lhassa. Quand j'ai lu votre petit livre, parce qu'il n'est pas bien épais, hein, petit livre, Nasma Alamir, je me suis d'abord demandé ce que vous aviez fumé ou ingéré, parce que je sais que dans les champs suisses poussent des champignons qui font des trucs bizarres dans la tête. Puis finalement, je me suis dit que non, c'était bien votre genre, d'aimer inconditionnellement tout ce que vous regardez, mais surtout cet endroit que vous nous décrivez comme... comme féerique, comme paradisiaque, c'est Rossinière.
Oui.
Qu'est-ce que vous êtes allée faire à Rossinière ?
Je suis allée rencontrer ma Suisse, au fond. Parce que vous savez, quand on s'appelle Nasma Alamir et qu'on est conteuse...
On se doute que c'est la Suisse du Sud.
Comment ?
Nasma Alamir, c'est la Suisse du Sud.
Vous voyez, donc on me demande de compter l'Orient, de compter tous les Orients, les mille et une nuits, tout ça. Et voilà, moi j'adore, c'est vrai. Mais depuis le temps que je suis là, je suis quand même là, à moitié suisse, si on veut bien.
Oui, là, on veut,
moi aussi, d'ailleurs, un quart. Bon, ma grand-maman était italienne, mais elle était arrivée à 2 ans en Suisse, donc on peut dire à moitié suisse. Eh bien, j'avais envie de travailler avec ce côté de moi que je ne connaissais pas, et je ne connaissais pas non plus la montagne en Suisse. Peut-être j'avais fait des camps de ski obligatoires que j'ai détestés à l'école, mais c'est tout. Mmh. Et quand les Nuits du Comte de Rossinière m'ont contactée une première fois, c'était pour compter, je pense, ce qu'ils avaient entendu. Et une deuxième fois, je ne pouvais pas, parce que je montais un festival. Et la deuxième fois, je suis allée à cette rencontre en disant, à condition que je fasse une création. Parce qu'un jour, je me suis réveillée et puis j'ai eu tout le projet qui m'était arrivé, donc comme dans un rêve. Et j'ai proposé ça au directeur du festival, enfin des Nuits du Comte de Rossinière. Il n'était pas du tout enthousiasmé au départ. Et finalement, il s'est lancé quand il est venu m'écouter conter au pois chiche. Et après, j'ai discuté avec lui de la manière dont j'avais envie de faire cette « Il était une fois Rossinière », c'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens, de m'interdire toute reconnaissance préalable, c'est-à-dire j'allais pas savoir qu'il y avait une église, je voulais rien savoir, je ne connaissais pas. En fait, c'est
vous
pas
vouliez
vrai.
Découvrir.
Voilà, je voulais
être
découvrir
pure et vierge, vide et découvrir.
Et surtout à travers les personnes que j'allais rencontrer de manière fortuite. C'était ça mon idée.
Une vraie journaliste.
Oui, c'est ça, sans a priori journaliste. Et ouais. Voilà, toute seule avec
la seule chose
votre
que je connaissais
regard.
De Rossinière, c'était Balthus.
Oui, comme tout
voilà,
le monde.
Voilà, comme tout le monde, quand on aime un peu l'art, quand même.
Et puis, on a vu des images, des photos, voilà, des reportages
ça.
Sur et ce chalet.
Voilà, mais moi, j'ai surtout vu, comme je vous dis, je n'ai pas de télévision. Donc, j'avais vu des peintures.
Des reportages photographiques et puis les peintures
voilà,
de Balthus,
surtout.
Évidemment. Ouais, ouais.
Donc, c'est tout ce que je connaissais. Alors, je suis allée totalement vierge, si on veut bien. Et je me suis installée dans un endroit sublime.
Voilà, ça commence.
Voilà,
ça commence. Je vais noter d'ailleurs. Je vais prendre des notes. Combien de fois vous allez dire sublime, merveilleux, extraordinaire, invraisemblable
oui.
Je note. Hein, bon, je ferai un petit compte à la fin.
Je vais faire un petit.
Nous avons un sublime. Sublime,
voilà,
il y en a un déjà. Je
oui.
Une barre. Voilà.
Donc un endroit tout à fait magnifique. Deux.
Je mets magnifique aussi comme adjectif.
La maison de la place, parce qu'en fait, ce que je savais par une découpeuse, parce que j'avais commencé à prendre un cours de découpage avec Henriette Hartmann.
Découpage sur papier, donc cet art fribourgeois tellement merveilleux.
C'est pas seulement fribourgeois, je pensais que c'était mondial. Si on veut bien.
Ah oui, on découpe partout.
Oui, on découpe.
Mieux à Fribourg que n'importe où ailleurs.
Je pense que la Suisse alémanique va...
Alors dites-moi pas ça quand on est en train de parler du pays d'en haut quand même.
Je ne sais rien.
Non, parce que c'est vaudois le pays d'en haut. Bon. Non, mais en Chine, on découpe depuis des milliers d'années, on découpe partout. C'est un art tout à fait subtil. Moi, ça m'a totalement émoustillé.
Émoustillé, ça va.
j'ai donc, pour entrer en Rossinière étude, il fallait impérativement que je prenne un cours de découpage. J'ai trouvé Madame Hartmann parce qu'elle était à Lausanne, ça m'arrangeait, et que c'est la présidente des découpeuses de suite, des découpeurs de Suisse, et c'est vrai que je me suis énormément amusée avec elle parce que c'est quelqu'un qui va au fond de la symbolique, donc on était pas seulement dans les petites vaches, les petites chèvres, on était dans vraiment tout ce qui pouvait sous-tendre et épanouir au fond un projet. Donc ça me plaisait beaucoup. Et moi, j'ai fait mon premier découpage.
C'était quoi votre premier découpage?
Oh, il est joli, il paraît. Quand on le regarde de loin, hein, je précise.
Pourquoi? Parce que de près, il y a des petits détails.
Ah, mais c'est un premier. Oui, vous savez, c'est un art, vraiment.
Parce que ça se fait vraiment au ciseau.
Ah oui, au ciseau. Totalement au ciseau.
C'est pas des lames, c'est pas des lames de rasoir ou des cutters ou des choses comme ça.
On peut aussi utiliser le cutter, mais là, en l'occurrence, c'est du ciseau, du tout petit ciseau très particulier. Et moi, j'ai évidemment voulu être moi dans mon découpage, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose d'assez suisse, entouré de deux grands palmiers.
Oui, bien
sûr. Voilà. Hein. Et ça a bien amusé.
Un chalet d'alpage sous les palmiers.
Mais voilà. Oui, exactement. Avec un bel oiseau féerique, comme ça. Et c'était mon entrée en découpage, ce qui était aussi un peu une manière pour moi de me faire patte blanche pour Rossinière.
Mmh. Alors, c'était bien parce que j'ai lu votre livre hier et enfin aujourd'hui, je l'ai un peu relu, je l'ai refeuilleté. J'ai fait tout ça au soleil avec un temps absolument magnifique devant des moutons et des chèvres. J'étais dans une ambiance possible. Parce que j'ai quand même eu parfois le sentiment de lire un livre qu'aurait pu écrire je revendique ça pour moi-même aussi, hein, j'ai des moutons, donc c'est vous dire, qu'aurait pu écrire Marie-Antoinette, reine de France, vous savez, allant visiter les paysans dans la campagne. C'est-à-dire une sorte d'irréelle idéalisation du monde, avec des petits moutons tout blancs merveilleux, avec des petits nœuds roses et de satin. Non, ceux-là sont toutes les couleurs, mais où les vaches sont majestueuses. Alors ça, c'est vous, hein. Les veaux malades guérissent, évidemment, les fraises des bois sont à profusion. La pluie est une bénédiction. Les gens ont eu des enfances de rêve, sont toutes belles et heureuses, sans parler des plottes de laine naturelles, dont les couleurs naturelles sont en parfaite harmonie avec tout le reste. Une espèce de monde idéal, plus qu'idéal encore. Et j'étais très... Alors je disais, mais c'est beau, hein ? C'est beau, mais on se dit, la vie les a pas touchés, ces gens-là, il leur arrive rien.
C'est pas vrai.
Ils sont heureux, contents, ils sont tous beaux et merveilleux, ils ont des talents inimaginable, tous. C'est extraordinaire. Mais non, c'est pas comme ça.
Mais c'est ceux que j'ai rencontrés. J'ai pas fumé. J'ai eu la chance d'avoir des belles rencontres.
Oui.
Et puis, vous savez, on m'a aussi dit d'autres choses que je n'ai pas dit. Par exemple, j'ai pas tout écrit.
Ah, vous avez choisi le meilleur et le plus beau.
Non, mais moi, c'était ça mon but. Moi, c'était, j'entrais dans ce village qui m'a vraiment, franchement fascinée. Je le trouve extrêmement beau. Il n'y a rien de moche, c'est quand même rare.
Hein? Oui.
Vous savez, oui, c'est vrai, parce que...
Oui, j'ai des paniers, là, par exemple. Les paniers sont plus paniers que n'importe où ailleurs.
C'est les paniers d'Hélène.
Voilà, alors Hélène. Racontez-nous quelques-uns de ces personnages, quelques-unes de ces personnes que vous avez croisées. Donc Hélène, par exemple.
Alors Hélène fait des paniers. Hélène, elle a, je crois, 5 enfants, un mari. Ils ont des moutons. Qui partagent avec le frère. Ils sont deux frères, en fait, les frères Anchaud. Hein, et ils ont 500 moutons.
Oui.
À eux deux, ils s'en occupent. Et Hélène, elle fait son jardin, elle file la laine, elle fait des confitures, elle fait du miel.
Voilà.
Elle a donc ses 5 enfants, elle fait ses potagers. Et c'est des gens que j'ai trouvé
énervant,
tellement. Mais non,
fait.
C'est pas énervant,
mais
c'est,
si.
C'est, mais c'est merveilleux quand même.
Voilà,
merveilleux.
Merveilleux.
Voilà. Je note. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ici, on est toujours fatigué. Vous savez, on a fait des courses. Dans un supermarché,
oui.
On rentre, on est fatigué,
bah,
on ne peut
épuisant.
Plus rien faire.
Vous êtes bien d'accord.
Bah écoutez, je ne sais pas.
Ah oh, si.
Oui, bah peut-être.
C'est
alors,
plus épuisant que de faire des confitures dans la nature.
Oui, bah si vous voulez. Mais enfin, tout ça pour dire qu'on peut rester créatif avec des horaires comme ils ont. Et ça, moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne pensais même pas que ça existait à ce point-là. Pour moi, c'était une découverte. Et c'est vrai, je suis une petite citadine.
Mais vous le dites très,
voilà.
Très clairement.
Et je suis arrivée là dans un monde que je ne connaissais pas. Et j'ai vu des gens avec de l'or dans les mains qui étaient créatifs. Ou quand ils n'étaient pas créatifs, comme certains, comme Myrta, mais ils sont des créatifs avec leurs paroles, avec leurs...
Avec relation, leur, avec leur
voilà,
façon
exactement,
de,
avec
de
leur,
se relier
avec
aux
leur,
autres.
Leur personnage, leur, oui, personnalité, leur amour de leur lieu. Parce que ça aussi, ça m'a intéressée. Parce que ces gens, au fond, si c'est si idyllique, c'est parce qu'ils adorent leur lieu. Et c'est ça qu'ils ont réussi à me donner, à moi. Donc, je n'irai pas à dire... Voilà, moi, j'ai ressenti quelque chose de très fort qui venait d'eux. J'ai rien inventé.
Vous les rencontriez comment? C'est-à-dire, alors, vous alliez de l'un à l'autre en disant, bah, allez voir, je sais pas, Marie ou Noélie.
Oui, bah, c'est un peu, disons. Moi, ce que je voulais, c'est là, par exemple, la première, je l'ai rencontrée devant la fontaine.
Oui.
Je lui ai dit, voilà ce que je vais faire. Bon, tout de suite, elle m'a dit, oh, vous êtes habillée. J'étais habillée à l'indienne, un peu comme ça, à Rossignol, avec des pantalons bouffants,
oui,
orange,
oui,
rouge, tout ça. Et puis une grande robe. Donc ça l'a amusée. Oh, ça nous change et tout. Et puis, et j'ai discuté avec elle. Elle m'a donné rendez-vous à 11h le lendemain et j'ai rencontré une Myrta, une femme.
Toute vive.
Vraiment toute, oui, vive, de 80, je sais plus, 83, 84 ans, que j'ai eue ce matin au téléphone. Parce qu'il faut que je vous dise en plus que ce que j'ai trouvé charmant, c'est que votre émission a été annoncée au conseil communal,
oui,
quand même, de Rossignol. Je trouve ça trop
juste
chou.
Il y a, oui, tout Rossignol nous écoute.
Il y a Rossignol nous écoute.
Vous serez élu, réélu, Michel.
Ouais. J'ai jamais pas le droit, je suis française.
Ici, vous resterez.
Oui, non, voilà. Ici, je reste. Oui.
Voilà,
ici, je suis.
C'est bien,
ici, je
voilà,
reste.
Vous êtes là. Vous êtes très bien là, d'ailleurs. Non, donc c'est difficile de ne pas aimer, vous savez, quand on est dans le vrai. Moi, j'ai rencontré des gens qui... Vous savez, moi, Nasma Al-Amir, j'arrive à Rossignol. Bon, je suis personne pour eux, d'accord? J'ai un projet qui paraît un peu exubérant, puisque je vais le compter, je vais compter mes rencontres, et je vais écrire mes rencontres, découper les images, faire découper
alors,
les
c'est
images.
C'est très joli, hein. Ça, oui, il faut l'expliquer, parce que le livre, à chaque page, enfin, ou en tout cas à chaque rencontre,
oui,
chaque personnage que vous rencontrez a été découpé.
Oui.
Alors, c'est la silhouette, c'est l'ombre chinoise, enfin, c'est la silhouette, le profil,
oui,
du visage, simplement le visage, hein. Et c'est magnifique. Parce
ah,
que,
oui.
Moi, je ne les connais pas, ces gens-là. Puis en plus, c'est vraiment qu'une silhouette. C'est
et vous savez, tous
qu'un
se sont reconnus. Parce que c'est vrai,
oui,
que j'ai fait venir Suzanne Schlepfer de Hinteregg, près de Zurich.
Oui.
Parce que c'est elle qui fait ça.
Qui est spécialiste
en
de
moins
ce
de
genre
deux
de
minutes,
chose.
Elle vous fait avec les cils,
mais
les
elle
barbes.
Elle découpe tout de suite.
Elle découpe en regardant la personne avec ses petits ciseaux à la main. Elle ne regarde pas ce qu'elle découpe. Elle, le papier plié
virevolte,
en deux,
comme
virevolte
ça,
comme ça dans ses mains. Comme une fée. Et après, elle vous sort les deux, parce,
oui,
que c'est toujours, ça sort en deux. Hein.
En double, oui.
En double.
Et on ne connaît pas ces gens, et pourtant, on a l'impression de les reconnaître.
Et même eux se sont reconnus. C'est preuve que c'est vraiment, vraiment...
C'est vraiment
elle est extraordinaire.
Hein.
Ils sont... Ça, c'était le 27 août. J'ai fait venir tout le monde à l'hôtel de ville,
oui,
qui est un endroit génial où on mange.
Ça me la panique. Hein,
non.
Fait venir tout Rossignol.
Voilà, non, seulement ceux qui ont participé. Vous savez, ils sont quand même... Oui, mais ils sont 500, hein, quand même. Bon,
oui,
j'ai pas eu tout le monde, hein,
non,
encore.
Mais pas mal. Pas encore.
Pas encore.
Elle n'en a pas terminé.
Non, non, non. Ah non, j'ai pas terminé. Ils étaient là, ils sont venus comme, vous savez, comme une procession.
Oui.
J'avais pas donné d'heure. Ça commençait à 1h, ça se terminait vers 6h. Et j'ai pas dit, toi tu viens à telle heure. Et les choses se sont faites, il n'y a pas eu un temps mort. Chacun était ébloui, se sont assis devant une fenêtre de profil. Toujours le profil l'autre.
Toujours le profil l'autre.
Voilà, le profil droit, on va dire, parce que,
ouais,
je ne me rappelle plus lequel c'est.
Devant la fenêtre. Il me semble que c'est droit, parce qu'il y a une photo,
oui,
qui en
c'est
témoigne.
Possible. Oui, c'est possible. Et oui, voilà, c'est, mm-hmm, ça.
Et ils sont installés, se sont assis, sont restés tout calmes. Il y avait en arrière-fond, il y avait les fontaines, la double fontaine de Rossinière.
Oui, merveilleuse.
Et puis l'horloge.
Une beauté incomparable. J'en sais rien, je ne sais pas, j'imagine.
Sainte-Sophie, c'est magnifique aussi. Sainte-Ursanne, c'est extraordinaire.
Et Maze, on n'en parle pas, pas tout à fait, mais pour moi.
Voilà, oui. Non, des beaux,
on
des beaux,
pas assez,
des beaux lieux. Mais c'est prévu hein, que je fasse ce travail à Maze, d'ailleurs.
Mais je peux vous demander, d'ailleurs, à toutes les deux, parce que vous aussi, Manuel Amaury, vous avez fait... Alors, ce n'est pas la même chose, mais vous avez organisé des rencontres chez vous, à Maze, en Valais. Et il y avait une envie de ça, il y avait une envie de chaleur, d'amitié, de partage, de rire. Vous les faisiez se balader. C'était bien, cette émission, d'ailleurs.
Merci.
Non, mais enfin, je pense que quand l'émission arrive, et puis ils s'en vont. Enfin,
c'est ce qui nous lie aussi, toutes les deux, de ce point de vue-là, par rapport au portrait, puisqu'au fond, quand elle découpe ses visages, c'est une forme de portrait. Quand elle raconte ses histoires, c'est une forme de portrait. Et mes émissions ont toujours eu pour vocation de faire du portrait. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à l'individu et de cesser de parler de chiffres, de masse, de globalité d'un village. Si on dit masse, les gens sont comme ça, les Valaisans sont comme ça. Moi, je peux dire que dans mon village, il y a autant d'individus,
il y a autant de
prénoms,
qu'il y a d'individus,
et que chacun de ces portraits montre à quel point, justement, ce qu'il y a de formidable, c'est cette différence qui parvient à cohabiter. Alors, probablement que Rossinière montre un peu les mêmes critères, c'est que les gens font aussi beaucoup de compromis pour vivre dans une communauté aussi petite, se connaissent beaucoup mieux aussi, connaissent leurs travers, leurs sobriquets, leur caractère.
Ah, les sobriquets.
Voilà, ils vivent dans un monde qu'ils connaissent avec grand détail. Mon père m'avait fait une remarque une fois qui m'avait touchée, parce que je pense qu'à Rossignat, t'as dû avoir ça, Nasma, mais quand les gens racontent une histoire... Ils peuvent pas simplement dire, tu sais, Robert. Ils disent, Robert, tu sais, c'est le fils de Jacques, le petit-fils de Jacqueline qui a eu un accident de tracteur l'année dernière. Tu te souviens, le tracteur que Robert... Et ça n'en finissait plus. Alors, un jour, j'étais un peu fatiguée de
pressée.
Cette... voilà. Et je dis à mon père, mais bon, on s'en fout, là, toutes ces histoires. Tu peux juste... Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, c'est ça ton problème. C'est qu'en fait, tu t'intéresses pas à l'histoire. Tu t'intéresses pas à l'histoire de chacun. Tu t'intéresses qu'à l'événement. Et il a raison. Des fois, je me fatigue des noms et des prénoms, mais s'intéresser à l'individu, ça demande une grosse implication. Ça demande de la patience et de l'implication. Quoi.
Et de l'intérêt. Et, Jean-Pierre Neff, par exemple.
Oui.
Alors lui, il vous a impressionné, Jean-Pierre Neff.
Oui, oui. Bah, mais
il vous a impressionné avant d'y aller, pendant et
pardon,
après.
Pardon. Avant, je ne le connaissais pas.
Non, mais il a le nom,
pas,
déjà.
Bah, évidemment.
C'est la Neff. Ouais.
Avant, je ne le connaissais pas. Hein. Donc, moi, j'ai connu tout le monde sur place. Hein. Voilà.
Non, enfin, vous en aviez entendu parler. Non, pas du tout.
Avant de le rencontrer,
oui
bah, à partir du moment où j'étais là, oui, c'est le vice-syndic.
L'après-midi, je vais enfin croiser Jean-Pierre Neff.
Voilà, parce que je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Oui, tout à fait. Oui.
Oui, non, c'est Jean-Pierre Neff.
Voilà, Jean-Pierre Neff. Ouais. Alors, c'est le vice-syndic. Et ce qui m'a beaucoup touché chez lui, c'est que, eh bien, justement, il y a cet amour pour son lieu de vie. Il a cette envie que ça continue à être comme c'est, si on veut bien, avec le mieux du mieux, si on veut bien. Hein? Voilà. Donc, il m'a parlé des forêts parce que il a une menuiserie et il restaure. Les chalets en madrier, il fait un ouvrage absolument superbe. J'ai pas encore dit, je crois.
Non.
Voilà.
Et
c'est ça. Moi, je suis touchée par. En fait, moi, j'adore les artisans, les artistes, les gens qui font des choses avec leurs mains, qui créent avec leurs mains, qui rendent le beau, nous redonnent le beau. Comme il a été conçu au départ, avec toutes ces histoires de clés, comme on dit, dans la construction de ces chalets qui sont tellement extraordinaires. C'est pour ça que quand j'étais arrivée, il était obligatoire pour moi d'être dans la maison de la place de Misette, parce que c'est une maison de 1664 qui est un palais des mille et une nuits de Rossinière, si on veut bien, tout en étant une maison rurale, totalement rurale, mais invraisemblable. Forcément, pour moi, c'était très nouveau, je ne connaissais pas ça. C'était quelque chose voilà, j'apprécie autant ça. Une vraie découverte. J'ai autant de plaisir à m'émerveiller devant des maisons comme Sabelle que devant un château, ou devant une cathédrale, ou devant, devant le désert, ou par exemple.
Un building ?
devant la tour de la télévision.
Ça dépend.
Une belle architecture.
Non, pas vraiment. Non, vous êtes. Oui, ben ça peut. Oui. Vous voyez, oui, oui, mais il y a des belles choses aussi dans le contemporain,
oui,
bien
parce
sûr.
Parce que de temps en temps, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une petite tentation un peu
passéiste.
Non. C'était tellement mieux avant.
Ah ben non.
Non.
Puisque c'est maintenant.
Oui. Enfin, c'est maintenant et en même temps, c'est maintenant et ça pourrait être hier ou avant-hier ou il y a 100 ans. On a l'impression que chez bien des gens, les choses n'ont pas tellement changé.
Ah ben non,
ces gens qui ont leurs moutons, qui font leur confiture, leur miel.
Ah ben non, vous, non, non. Alors ça, je suis pas non. d'accord. Non,
ah ben
non, non.
Alors dites-le moi, vous n'êtes pas d'accord.
Non, non, justement. Alors eux, ils ont une voiture pour aller à l'alpage où ils mettent leurs moutons très loin. Donc ils ont. C'est vrai que. L'organisation de la vie doit être aussi difficile qu'avant, si on veut bien, malgré toutes les
commodités.
Voilà, les commodités actuelles, les tracteurs, les ceci, les cela. Je Noldi, par exemple, me disait.
Les machines à laver, enfin des trucs bêtes, mais
utiles. Voilà. Oui. Mais Noldi me disait quelque chose de très joli. Il me disait, oui, maintenant on fauche.
Noldi, c'est Arnold. Hein.
Voilà, oui, c'est Arnold.
Utilise les sobriquets. Les...
Oui, ben oui.
Comme une vraie. Pétolette.
Une pétolette de première, ouais.
Pétolette, parce que les habitants d'Orsinières, il faut le dire,
oui,
s'appellent
les
des pétolets.
Voilà, ça a été aussi une grande surprise. Hein,
c'est marrant parce que ma tante Simone m'appelait comme ça quand j'étais petite.
Mais
ma petite pétolette.
Hein. Mais ma maman et ma grand-maman, encore maintenant
oui,
d'ailleurs, ma
pétole.
Pétole. Oh, ma petite pétole, ça va
ouais. Ouais, voilà.
Mais ma fille, elle va bien la pétole.
Elle va
et
bien.
Et puis c'est vrai que quand on réalise, et puis en plus pétole, c'est un mot suisse. C'est pas un mot français, vous
ah
le
non,
trouvez
non,
pas.
En France, non, ça voilà. N'existe pas.
Alors que je trouve ça, moi je trouve que c'est une richesse de plus, parce que cet excrément et son appellation, son AOC, c'est quand même extraordinaire, quand même. Non.
Moi je les mangeais petite.
Oui, ben voilà, ben ça peut pas faire de
comme
mal.
Comme de
vous
la réglisse.
Voilà.
Bah, on les ramasse.
Visiblement, ça a été.
Donc je voulais juste vous dire, Noldi m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très joli.
Voilà, on était là.
Il m'a dit, à l'époque. On fauchait dans le silence et c'était beaucoup de travail et il y avait comme ça un rythme des danses qu'on voyait avec juste le souffle des faux et maintenant ce même acte est devenu bruyant
avec les tracteurs
avec engins. Tout ça mais en même temps ça facilite donc il y a toujours quelque chose en fait un pendant. Il y a toujours un miroir au fond un peu, ce qui réfléchit l'image d'avant avec ce que c'est maintenant qui ramène. Alors est-ce que peut-être ça donne la possibilité d'être plus créatif parce que ça va un peu plus vite? Est-ce que ça donne la possibilité de mieux vivre parce qu'on peut faire plus de choses alors que je sais que c'est très très difficile la vie à la montagne.
Et c'est Misette qui raconte, quand on était gamin, dit-elle, papa allait tous les jeudis au marché à Châteaudet, il rentrait tard, maman était en souci, alors elle descendait avec son falot des chevalets, empruntait le Kantouski, notre chemin d'école, puis elle trouvait toute une équipe qui bataillait avec le bâton sous l'horloge. Alors rassurée, elle remontait. On a eu une belle vie, jamais froid, jamais faim. On n'avait qu'une paire de souliers qu'on bourrait de papier pour les faire sécher près du fourneau. Mes parents étaient amodiateurs pendant 10 ans à l'Arche de Noé. Mon crevé, il faudra dire
oui.
Qu'elle
ah
crevait,
oui, ça je vais vous raconter.
Ouais, faisait le thé pour les invités. Il me raconte encore les narcisses, il y en avait partout, et le chant silencieux des faux à la saison des foins. Noldi, le bienheureux, rentre chez lui, juste à côté. Est-il allé jouer de l'accordéon? Merci, cher Noldi.
Oui, c'est
le
vrai.
Crevé.
Alors, le crevé.
Moi, c'est joli comme surnom.
Oui, tout à fait. Je me suis intéressée au sobriquet, parce que c'est vrai que j'ai réalisé qu'il y en avait beaucoup qui avaient les mêmes prénoms et les mêmes noms. Hein, donc, et puis c'est là que j'ai posé une ou deux fois des questions. Ça, c'était d'entrée de jeu. Je savais que les sobriquets existaient. Ils existent partout. Et donc, j'ai demandé à chaque rencontre, donnez-moi quelques sobriquets. Et j'ai eu des sobriquets tout à fait intéressants, dont le crevé. Alors, le crevé, on l'appelait ainsi parce qu'il était très pauvre. Il avait beaucoup d'enfants. Il devait un peu taquiner la dive bouteille. Et comme il était pauvre... Eh bien, il allait chercher dans la montagne les animaux qui avaient des rochers. Et puis, il les prenait. Et donc, au fond, c'était
les carcasses de ces
animaux qui nourrissaient sa famille. Et c'est comme ça qu'on l'appelait le crevé, parce qu'il était...
Parce qu'il mangeait les animaux morts.
Voilà, c'est ça.
Enfin, il ramenait à sa famille. Tout ça.
Voilà. Et c'était un personnage, paraît-il, tout à fait haut en couleur.
Vous l'avez lu, évidemment, Manuel Amaury, ce petit livre.
Bien sûr.
Vous en avez pensé quoi, vous?
Ben, moi, ça me touche aussi parce que je viens d'un petit village. Quand elle parle, par exemple, des sobriquets, le sobriquet des Maurice, c'était les tsats, les chats, en fait. On est... Et je le disais d'ailleurs tout à l'heure quand on a bu un thé ensemble avant de venir vous rejoindre, Michel, je lui disais que les sobriquets, c'était à double tranchant parce qu'il y avait les sobriquets qui faisaient qui donnaient de l'ampleur à la famille, puis ceux qui pouvaient les rendre un peu fébriles. Et je me souviens que même après 3 ou 4 générations, il y avait des sobriquets qu'on n'osait pas prononcer. Enfin, on pouvait vexer la personne sur plusieurs semaines.
Par exemple. Enfin, qui était un peu honteux. Enfin, je veux dire, était l'expression d'un travers.
Alors, c'était soit un travers, soit. Oui, c'est toujours proche d'une forme de caractère. Alors, c'est vrai que si un. Je ne sais pas, 3 générations auparavant, l'un de nos anciens était pingre. Ça nous colle à la peau pour les 3 générations qui viennent.
Pour les siècles à venir.
Donc, c'est vrai que je comprends les gens qui essaient désespérément de se débarrasser de ce truc qui leur colle aux chaussures. Mais ce que je trouve vraiment joli dans le travail qu'elle a fait, c'est qu'elle a passé déjà du temps avec eux. C'est-à-dire qu'elle a vécu à l'intérieur des familles. Et Dieu, ce que je sais combien un village est compliqué. Et Dieu, ce que je sais aussi ce qu'il peut y avoir de sordide comme histoire de famille dans
Mais
les toutes petites communautés. Mais au fond, c'est son choix, c'est son regard. Ça veut dire qu'elle choisit de restituer ce qui lui a paru lumineux. C'est un choix de travail. Et ça, ça me touche beaucoup. Je trouve surtout dans une démarche poétique. Pourquoi faudrait-elle qu'elle fasse une enquête incroyable sur toutes les histoires sordides du village et des coming out, ce qui est tellement à la mode aujourd'hui. Elle choisit de poser son regard et elle choisit de choisir la lumière qui passe sous la porte plutôt que de choisir l'obscurité. C'est son choix et je trouve que ça fait du bien par les temps qui courent.
Seul petit coup de colère, de colère relative, c'est à la fin.
À la fin, oui.
Oui, vous en prenez à certaines formes ou certains mouvements écologistes.
Oui, et pourtant je suis, moi, je suis totalement écolo.
Plutôt, mais alors.
Là, j'étais pas tout à fait d'accord avec certains bâtons qu'on mettait dans les roues de ces personnes qui ont déjà tellement de difficultés à pouvoir exercer leur métier.
Et entretenir leur nature telle qu'ils l'entendent.
Exactement, c'est aussi. Ça. Alors ça, c'est pour ça que je me disais...
Alors la réintroduction du lynx, du loup, par exemple, ça vous fâche un peu.
Mais oui, parce que réintroduisons le loup quand il y a des grands espaces où il n'y a pas d'habitants, où il n'y a pas de troupeaux, où il n'y a pas de risques. Là, d'accord, réintroduisons tous les loups qu'on veut. Mais là où ça peut mettre en danger... le travail, la vie,
une économie et une économie personnelle,
familiale. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est pas réfléchir. C'est réfléchir très souvent. Ce qui m'agace un peu, je trouve, c'est qu'il y a des réflexions de citadins qui prennent des décisions pour les campagnards, les paysans, les montagnards, et ils sont pas sur place et ils savent pas. Et c'est un peu, on est entré dans une ère du sentimentalisme. Et je pense que le sentimentalisme, quand il est comme ça, eh bien, il fait du mal. C'est pas qu'il fait du bien. On est au-delà. Vous voyez, vous pouvez imaginer que je suis un peu sentimentale de Rossinière. Eh bien.
Ah non, amoureuse. Ah
oui, amoureuse. Non, ça c'est vrai, je suis amoureuse.
Non, amoureuse.
D'ailleurs, je lance un petit mot en disant que s'il y a un tout petit chalet minuscule, je vais.
Un petit maillet,
une chambre. Pièce. Voilà, je viens. Bon, je m'installe.
Étant donné que tout Rossinière vous écoute en ce moment, donc Monsieur Jean-Pierre Neff.
Voilà, Jean-Pierre Neff. Voilà. Donc,
c'est vous qui nous écoutez en ce moment. Si vous avez une toute petite bâtisse en bois, rien, avec deux poutres, un petit bout de toit, avec quelques tavillons quand même.
Les tavillons, je suis amoureuse des tavillons.
Oui, voilà, donc quand même, un minimum.
Ah ben oui.
Un minimum.
Comme elle connaît la fontaine, donc elle sait où elle se lavait.
Oui, voilà. Une petite fenêtre.
Au milieu du village.
Un petit poêle à bois. Voilà. C'est bon, vous venez.
Ah oui, je viens.
Et vous faites éventuellement une petite soirée de compte comme
tout à fait.
Le week-end, le samedi.
Quand ils veulent.
Petite veillée.
Tous les jours.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Monsieur Neff, vous êtes prévenu. On compte sur vous. On va écouter quelques notes d'une musique que vous allez, vous, reconnaître et que les éditeurs vont peut-être découvrir. C'est Anja Losinger. Et puis on en parle. Anja Losinger, oui. Et on en parle.
Merci.
Anya Losinger au xylophone et Anya Losinger au xala. Les deux.
Ah, d'accord.
Les deux à la fois. Alors là, j'en sais rien, mais peut-être
je connais peut-être pas ce disque-là, en fait.
C'est apparemment des rythmes comme ça, mais Anya Losinger, connaissais.
Ah oui,
parce que vous n'étiez pas toute seule à Rossinière. Il y avait un monsieur qui filmait.
Ah oui, mais alors ça, c'est mon filleul, Antoine Gallet.
Bah oui.
Oui, que j'aime. Il est trop intéressant. Vraiment, il est hyper intelligent, il est sensible. C'est vraiment, il a 21 ans, c'est un vrai cadeau. Et lui, il fait des films depuis qu'il est tout petit. Moi, je l'ai connu dans le ventre de sa mère.
Je
l'aimais déjà.
Il a filmé son accouchement.
Voilà, quasiment. Et je l'aidais déjà à 8 ans. Je trouvais des accessoires. Je lui facilitais un petit peu la vie parce qu'il adorait filmer. Et évidemment, quand j'ai voulu mettre dans cette espèce de trilogie d'oral, d'écrit et d'images, et les images, c'était évident que ça allait être avec lui parce qu'il a... En plus, j'aime beaucoup. C'est une des rares personnes avec qui je peux philosopher sans qu'on me prenne pour une enquiquineuse. Par exemple, on a fait plein d'allers-retours jusqu'à Rossinière et de temps en temps, on prenait un sujet de conversation, on parlait pendant 1h20 du doute. Et moi, j'adore ça. Vous savez, je trouve ça très stimulant. Mmh. Et on parlait... Voilà, il y a toujours beaucoup de choses. On partage énormément. Et moi, j'adore partager son regard aussi. Parce qu'il arrive à être en admiration devant des fleurs et devant des chèvres. Et je trouve qu'un jeune homme qui est brillant, qui a fini les lettres, qui a fait philosophie, lettres anciennes, je sais pas, il a tout fait, il est invraisemblable, et puis qui puisse être comme ça fondu dans la nature, ça m'émeut beaucoup. Et c'est vrai qu'avec lui il y a un partage qui est parfait, vraiment parfait. J'ai rien à redire. C'est toujours juste. On mange ensemble, on a faim en même temps, on n'a plus faim en même temps, on a envie d'aller voir tel arbre là ou tel pont ici. Les choses coulent comme une rivière avec tous les scintillements du soleil à l'intérieur des flots. Ça, c'est pour moi, c'est le vrai cadeau. Donc, il était... Oui.
Bon, à part ça, j'aimerais juste stopper le flow, mais juste pour revenir à Anya Losinger, parce que j'essaie
de mettre à
la place de ceux qui ont entendu cette musique, ils disent, mais qui c'est ?
Oui, je sais pas.
Oui,
c'est vrai. Tu as raison. Anya Losinger.
Mais Nasma Amir fait des toutes petites digressions.
Oui.
Elle a le droit.
Alors, Anya, c'est une musicienne, c'est une danseuse de flamenco contemporain, à la base. Et elle a créé un instrument de musique, parce qu'elle est musicienne aussi, exceptionnelle. C'est une bernoise, moi je suis folle de son travail, vraiment. Et elle a inventé un instrument qui sont des planches en bois, donc un instrument qu'elle pose par terre, sur lequel elle se met avec des bâtons. Elle marche comme un pèlerin avec les chaussures de flamenco, avec lesquelles elle fait un rythme avec les pieds, un rythme avec les bâtons, un rythme aussi avec des glissandos de la partie métallique de ses chaussures. Et ça donne quelque chose d'invraisemblable, parce qu'elle a une grâce puissante. C'est vraiment ça le flamenco, un peu. Mmh. Et elle a cette espèce de grâce lumineuse et ce côté très j'avance comme ça. Elle joue avec la lumière, avec cette gestuelle extraordinaire. Elle peut danser aussi tout en faisant de la musique. Donc c'est brillant, c'est vraiment brillant son travail. Là, vous n'avez pas entendu, évidemment.
Mais non, alors c'est peut-être pas très représentatif.
Non, parce que moi,
j'ai dit
à Stéphanie, éventuellement, de passer un certain disque que j'avais, mais je pense qu'elle a trouvé ça.
Et c'est pas Stéphanie Gauthier qui choisit.
Ah voilà, d'accord. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, moi, je vais travailler avec elle. C'est elle qui fait la musique du film.
Voilà.
Alors,
parce que c'est
comme ça qu'on a dit.
On y est.
On y est. Voilà.
Nous y voilà. Anya Losinger fait la musique du film. Film qui est en montage. Enfin,
voilà.
Qui est en,
non, on n'a même pas encore fini de le filmer.
On n'a même pas encore fini le film. Bon,
voilà.
C'est vous dire.
Oui.
On cherche des producteurs.
Voilà.
Tout Rossinière, nous écoutons.
Voilà.
On continue à faire des appels extrêmement
discrets. Mais on en a cherché un pour le moment, parce que je suis allée
Manuela m'a organisé un petit rendez-vous avec la chef des documentaires de la télévision, parce que moi, j'ai jamais fait de film, donc c'était important.
Et on l'a salue, c'est notre adorable Miruna Coca-Cosma.
Voilà, exactement. Alors, elle est vraiment adorable.
Oui.
Et elle a pris le film, les 15 minutes qu'on a faites avec Antoine, et elle m'a fait un retour un mois après, qui était vraiment, franchement, un retour très...
Très positif.
Ah oui, très positif. Puis moi, j'avais besoin de ça, parce que c'est vrai, j'ai jamais fait ça.
Quoi
même.
Qu'il en soit, vous avez déjà posé des dates à Rossinière,
ah,
même.
Oui, oui.
Pour la projection du film.
Oui.
Donc il faudra bien
qu'une
manière ou d'une autre, il soit terminé et monté les 25, 26 et 27 novembre.
Voilà, oui, c'est les Tsamartisans où est vendu mon livre aussi. Parce qu'en fait, j'ai décidé de vendre mon livre dans des lieux qui ressemblent un peu au livre.
Oui.
C'est-à-dire qu'il est vendu à la boulangerie chez Petou à Rossinière.
Chez Petou, oui, le
voilà,
boulanger.
Voilà, le Petou, voilà, oui. Qui est dedans, qui est dans l'histoire.
Oui.
Et puis il est vendu à l'hôtel de ville où on mange sublimement bien. Sublimement, j'avais pas encore vu.
Sublime, on l'a déjà.
Ah, sublime, mais pas sublimement.
Ah oui, non, mais oui.
C'est pareil. Oh, c'est une famille.
Merveilleusement,
c'est Cosette qui nous a accueillis vraiment tellement généreusement parce qu'on a organisé le découpage du 27 août en haut chez elle. On a fait beaucoup de choses chez elle. Et les Tsamartisans sont à Châteaudet. C'est des artisans qui se sont réunis. C'est un petit magasin tout à fait charmant. Et eux organisent le marché de Noël de Rossinière. Et là, je vais avoir un lieu. Et puis, ce qu'il y a de génial dans ce marché de Noël, c'est que c'est chez l'habitant. Donc, on aura l'occasion de voir des tas de stands d'artisans, mais des bons artisans. Hein,
oui.
À
Rossinière, ils sont bons, les artisans.
Mais ils viennent de partout.
Hein. Ah,
oui. Mais ils viennent de la région.
Oui.
Enfin, je sais pas. Il y a même un vigneron. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, Brigitte. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller dans le cœur du village. En passant d'un artisan à un autre, on voit comment sont les constructions, comment on est accueilli, comment l'espace ressemble à celui qui nous accueille. C'est aussi quelque chose d'un petit peu... c'est pas les tentes en extérieur comme on a régulièrement. Et puis là, j'aurai une exposition de photos, des photos que je fais de Rossinière, et je vais compter la suite de mes rencontres, parce que
c'est pas
en fait, j'arrête
pas
d'en rencontrer.
Évidemment. Il y a même 500 personnes à Rossinière.
Oui.
Tu travailles pour plusieurs années.
Voilà, oui. Si c'est pour être mon métier, moi je fais raconteuse de Rossinière comme métier.
25, 26 et 27 novembre, on va écouter une autre musicienne suisse. Elle a été choisie comme choix de première. Vous dire que c'est pas n'importe quoi. Et elle sera en session Paradiso le jeudi, cette semaine, jeudi 14 avril, donc entre 19h et 20h. Le concert, comme toutes les sessions Paradiso, est gratuit, mais la réservation est obligatoire sur le répondeur au numéro 021-318-16-20. 021-318-16-20. On écoute Éléonore.
Toutes les femmes sont belles. Je suis épris de toutes celles qui seront fauchées en plein vol. Beau. Brun et faux, illusion folle qui dégringole, beau, brun et faux. Quelle est celle qui un matin, quelle est celle qui sera ma fin? Je suis un amant de songe, don Juan de romance, bel objet adoré, auréolé de drame, beau héros sans erreur. J'avance triomphant. Sur ce damier de dame, flâneur, je flotte et flatte, elle plane toute béate. Je m'adjupate, j'appâte, fascinant et fatal aux femmes affamées. J'incarne vos fantasmes et redeviens fantôme. Toutes les femmes sont belles, je suis épris de toutes celles. Je suis attentif et galant, beau, brun et chaud. Je suis la belle.
Voilà, Éléonore, à découvrir en live, en chair, en os et en son. Jeudi 14 avril, donc jeudi prochain, session Paradiso, c'est ici à la radio, à la Sala, à Lausanne, au 021-318-16-20. C'est gratuit, mais il faut réserver, parce qu'il n'y a pas énormément de place. Vous vous apprêtez à faire des choses assez étonnantes aussi, Nasma Al-Amir. J'ignorais qu'on pouvait apprendre à compter. Je pensais que C'était des choses de l'enfance, qu'on avait une grand-mère qui comptait, et puis, ou une tante, et puis qu'on apprenait comme ça sur le tas.
Ceci dit, je pense quand même qu'on a des prédispositions.
Et j'imagine, j'imagine.
C'est un peu comme bien des choses, comme être animateur de radio.
Mais comme je pense faire de la musique ou n'importe quoi d'autre.
On peut prendre des cours pendant longtemps et on est totalement incapable.
Oui, quoi, certainement. Ouais. Mais là, c'est un peu pareil. Donc, vous allez donner des cours, et des cours dans un cadre extrêmement sérieux. C'est une hip-hop, enfin, l'université populaire.
Oui. Voilà, bon, j'en donne depuis des années, hein,
oui,
déjà.
Oui. Oui, 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 certes, mais enfin là, c'est un peu spécial. Et puis vous avez trois cours différents dont j'aimerais, rapidement, parce qu'évidemment le temps passe, que vous nous parliez.
Alors, il y a les ateliers de conte. Là, on travaille le conte. En fait, je leur propose d'être en public au bout de 8-9 fois.
Ça, hein.
Oui, mais c'est très très bon pour l'estime de soi, parce que du coup, on est obligé de travailler. Si on ne travaille pas, évidemment, on n'y arrive pas. Mmh. Et dans chaque personne, de toute façon, tout le monde a quelque chose à raconter. Il n'y a pas de science infuse du conte. Moi, je suis contre. J'ai des personnes qui viennent à mes ateliers et qui me disent « Non, alors moi, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça » ou « On m'a dit qu'il fallait faire ceci ou faire cela ». Et moi, je pense qu'il faut faire avec qui on est. Mm-hmm. Voilà, c'est ça. On fait avec, vraiment avec soi. Et c'est ce qui rend d'ailleurs les choses beaucoup plus faciles parce qu'on n'a pas besoin de jouer à ce qu'on n'est pas.
De jouer au conte.
Voilà,
ça peut être une révélation artistique ou ça peut être carrément thérapeutique. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent à travers le conte quelque chose d'assez thérapeutique.
Absolument, oui, tout à fait. On fait des exercices d'ancrage, de l'improvisation, de la respiration. On fait beaucoup de choses qui peuvent mettre à l'aise les gens. Et puis on est dans ce monde de conte qui est quand même un monde où ça résonne toujours à l'intérieur. Il y a toujours quelque chose qui va parler de quelque chose qui nous touche, hein, de toute façon, même si on n'a pas fait exprès de choisir tel ou tel conte. Et c'est assez extraordinaire de voir des gens qui ne se connaissent pas, qui sont là le premier cours, on fait un peu connaissance, quelles sont vos attentes. Et puis après, on voit comment elles font très vite connaissance, parce que le fait de choisir tel conte, de le dire de cette manière, de le regarder ou de l'entendre de telle autre manière, eh bien, on a fait un...
Elle lit les personnes entre elles.
Voilà, exactement. Mmh. Et on fait connaissance très, très vite.
Alors ça, c'est le cours atelier de conte. Il y en a un autre qui a trait au rituel du coucher.
Oui, voilà. Alors ça, c'est une petite idée que j'ai eue. Moi, j'adore travailler avec l'université populaire parce que...
Ils sont très
Madame
ouverts.
Madame Beaudame, vraiment, elle est ouverte. Et quand je suis arrivée avec mon idée du rituel du coucher avec les histoires pour les enfants, elle était très enthousiaste. Et c'est vrai que ça, on le donne sur deux fois. Mm-hmm. Donc c'est juste, on parle un peu de il y a aussi un peu de yoga, et puis du choix d'histoire, du calme.
Et du travail de la
voix. Voilà, c'est ça, exactement. Etc. Voilà, tout à fait.
Et puis un troisième cours.
Un troisième cours, c'est sur l'art de la parole et de la gestuelle. Alors ça, c'est un cours qui entre dans la formation continue. Et donc ça, c'est vraiment comment se mettre en valeur dans une situation de recherche d'emploi, par exemple, ou bien dans une rencontre, ou quand on est un petit peu timide, mettre derrière soi tous les parasitages qui peuvent nous déconvenir, nous mettre moins en lumière, on va dire. Voilà.
Nasma Alamir, si on veut vous entendre conter, il faut aller au Pois Chiche, à l'avenue de Morges, à Lausanne.
Oui, voilà.
Le 14 mai, à quelle heure?
À 20h30.
20h30, le 14 mai, vous compterez.
Voilà, je compterai des contes, des sagesses du monde. Parce que c'est vrai que je ne suis pas restée scotchée au soufisme. Hein, du tout.
Ni à Rossinière.
Ni à Rossinière, hein, puisque je me réjouis de pouvoir faire ce travail dans d'autres villages. C'est vrai que tout ce qui est un chemin de recherche, de lumière, d'amour, sans galvauder ce mot qui est devenu
d'humanité.
Un peu... D'humanité, voilà, tout ça me passionne. Et je vais chercher des contes amérindiens, des contes tibétains, des contes de partout. Et quand je ne trouve pas les contes que je veux, je les invente. Voilà.
Et toc.
Et voilà.
On avait eu à peine le temps de s'habituer à ce wagon qui se déplaçait sereinement avec vos invités que paf,
c'est fini.
Voilà, il a déraillé. C'est incroyable.
Non, il continue sa route. Ouais.
Mais ça passe vite les choses.
Ouais, les choses passent vite, ouais. Mais peut-être que c'est aussi ça le propre de l'existence, c'est d'être rassurant.
C'est d'être éphémère.
Ouais, c'est ça, c'est de se dire que tout ça est très fragile et que c'est chouette de faire des voyages et c'est chouette
toujours
de les multiplier.
Derrière les jumelles.
Alors là, je travaille pour Passe-moi les jumelles actuellement et je rentre d'Andalousie où j'ai une chance extraordinaire de rencontrer des gens aussi formidables et de la même manière que Nasma a pu porter son regard sur des êtres et les mettre en lumière. Je pense que c'est le grand privilège de travailler pour cette émission parce que au fond, on ne recherche que ça.
la lumière. Rencontres et la lumière. Merci Manuela Maury.
Mais merci pour votre
accueil. Merci Nasma Alami.
Mais merci Michel.
C'est la fin de cette émission, préparée avec les collaborations de Stéphanie Gucci pour la production, de Stéphanie Jovanovic pour les choix musicaux et de Mathieu Ramsauer qui était en régie ce soir de manière tout à fait exceptionnelle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Mathieu. C'est bien, je suis contente de voir sa bouille. Salut Mathieu. Juste après les informations, vous retrouverez les drôles d'histoires, les histoires choisies et racontées ce soir par Lolita. On vous souhaite évidemment une très très belle soirée. Nous, on se retrouvera demain à partir de 20h et 3 minutes, 3 minutes 30, vraiment si les infos sont trop longues. Merci à vous tous et à demain. Vous écoutez la première, il est 21h.